Bonjour et belle matinée à tous. J'espère que votre week-end fut agréable, apaisant, relaxant, dynamique, intéressant. J'espère qu'il fut comme vous le souhaitiez. Surtout, j'espère que Guyane la première n'était pas très loin. Ce lundi 7 octobre, vous êtes au bon endroit et à la bonne heure, toujours. Le bon endroit, c'est bien sûr Guyane la première. Et puis 9h-10h, c'est notre heure, l'heure du partage. Vous le savez, sous notre Tukushipan, l'heure des conversations, l'heure aussi à laquelle on vous écoute volontiers. Et oui, je vous le dis, cette émission ne pourrait pas exister sans vous. Ce matin, place au sujet qui vous intéresse, place au sujet du jour. Connaissez-vous, avez-vous déjà entendu parler de la psychogénéalogie? Elle pourrait expliquer bien des choses sur nous et sur l'existence que nous menons. Par exemple, subir des échecs récurrents et découvrir qu'une arrière-grand-mère a connu les mêmes déconvenues, être très angoissé et découvrir un secret de famille enfoui, ou avoir des maux de gorge continus et découvrir qu'un ancêtre s'est suicidé. Ce matin, sous notre Tukushipan, on se pose la question suivante. Recevons-nous un héritage inconscient de nos aïeux, une sorte de mémoire ou un fardeau familial? Nous verrons. Les traumatismes de nos aïeux ont-ils une répercussion sur nous? On en parle ce matin avec notre invitée, la thérapeute et énergéticienne Corinne Blanchet. Bonjour Corinne Blanchet.
Bonjour Oriana, bonjour à tous vos auditeurs.
Alors vous entendez, on se pose énormément de questions.
Oui.
Et vous allez nous aider à comprendre tout cela. Merci encore d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors je précise, Corinne Blanchet, vous êtes installée en Martinique. Votre
Exactement.
Cabinet se trouve dans la commune de Sainte-Luce.
C'est bien ça, dans le sud de la Martinique.
Exactement. Et votre démarche thérapeutique repose sur l'énergétique et l'héritage transgénérationnel, le sujet qui nous Exactement. Intéresse ce matin. Nous avons une heure pour comprendre, pour découvrir tout cela grâce à vous, Corinne Blanchet. Et pour commencer, j'ai deux questions en une. D'où ça vient, la psychogénéalogie, et pourquoi s'y intéresse-t-on de plus en plus ?
Alors, la psychogénéalogie, en fait, c'est une branche de la psychanalyse
oui.
qui date, on va dire, des années 80, donc c'est relativement récent. Elle est issue, en fait, de toutes les thérapies familiales. Hein, donc, c'est suite à des nombreuses recherches que cette discipline s'est créée aux années 80. Et donc, elle allie, en fait, la généalogie et la psychologie.
D'accord.
Tout simplement.
D'accord.
Donc, sachant qu'effectivement, quand on est dans une démarche de psychogénéalogie, de fait, on va s'intéresser à sa généalogie. On va devoir faire des recherches généalogiques.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Première chose.
Ouais. Et on s'y intéresse de plus en plus.
Oui, parce que effectivement, alors c'est vrai que la psychogénéalogie, on va dire qu'il y a toute la partie scientifique maintenant avec l'épigénétique, où les scientifiques s'intéressent également à toutes les transmissions qu'il peut y avoir dans les gènes.
D'accord.
Donc on peut hériter des traumatismes de ses ancêtres au niveau génétique, tout simplement.
Maintenant,
donc,
c'est avéré, scientifiquement avéré.
Exactement. Donc c'est vrai que c'est encore, on est encore dans les prémices de toutes ces recherches, mais il y a néanmoins un certain nombre de scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Il y a des, voilà, je crois que c'est en Allemagne, il y avait eu une étude qui avait été faite sur. Donc sur la grand-mère, la mère et la petite fille. La grand-mère avait été violée et donc sa fille était issue d'un viol. Et donc au niveau du gène traumatique, on s'était aperçu que le gène traumatique était plus important chez la petite fille que chez la mère finalement.
D'accord.
Donc voilà, c'était bon. Je rentre pas dans les détails parce que là, on va dans de la science, mais en tout cas, voilà, vraiment, on s'intéresse à ça puisque voilà, les gènes sont aussi influencés par l'environnement, tout simplement.
C'est important, effectivement, de le dire. Alors, faut-il avoir, Corinne Blanchet, le culte des ancêtres pour vouloir se plonger dans la psychogénéalogie? Il faut avoir un intérêt, une curiosité.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes au départ qui s'intéressent tout simplement à la généalogie, puis qui veulent aller plus loin, ou bien des personnes qui ont des blocages dans leur vie, se posent des questions, et malgré tout le travail, par exemple, thérapeutique que ces personnes ont déjà fait, bah, elles ne trouvent pas les clés. Donc, peut-être qu'il y aurait des réponses au niveau des ancêtres. C'est une supposition. En psychogénéalogie, on fait des suppositions et on va faire de la vérification dans la mesure du possible, avec toutes les recherches généalogiques, hein, évidemment.
On devient un véritable enquêteur, hein. On fouille.
Exactement, c'est ça. On devient détective privé. Hein. Ça, c'est une obligation.
C'est ça, hein.
Et ça prend du temps. C'est sûr de la longueur parce qu'il est... Il faut quand même dire que mettre les pieds dans l'histoire familiale est parfois très difficile. Il peut être aussi douloureux et peut faire remonter aussi des souffrances. Alors, il y a tout l'aspect positif, évidemment.
Bien sûr, oui.
Sur lequel on va s'appuyer après en travail thérapeutique. Mais effectivement, en général, on va plutôt aller voir dans un premier temps ce qui peut bloquer pour après s'appuyer sur les ressources de l'arbre.
Exactement. Et finalement aussi, en préparant cette émission, Corinne Blanchet, je me suis posé la question suivante. Est-ce que la psychogénéalogie, ce n'est pas soulever le couvercle du secret, révéler quelque chose qui aurait dû rester caché?
Alors, on peut voir ça sous cette forme-là. Simplement, les secrets, ils se transmettent de manière inconsciente.
Ouais.
Donc, même un secret, on pense que voilà, on l'a enfoui sous le tapis, mais il est toujours là et puis il peut ressortir sous une autre forme ou pas la génération qui a vécu ce secret, mais sur plusieurs générations après, par exemple. Alors, je vais vous prendre un exemple tout à fait concret qui me concerne moi.
Oui.
J'ai toujours eu le sentiment, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un enfant caché dans ma famille. Je ne sais pas pourquoi, hein. J'avais cette intuition, ce sentiment. Et adolescente, j'étais gothique, donc tournée du côté de la mort. Pas suicidaire, mais vraiment tournée du côté de la mort. Et je dessinais tout le temps des femmes enceintes, des cordons ombilicaux, des bébés. Allez savoir pourquoi, aucune explication logique. Et donc en travaillant, donc j'avais déjà commencé à travailler sur ma généalogie, et en approfondissant, en allant dans la psychogénéalogie, il fallait que je m'intéresse plus particulièrement aux avortements et aux fausses couches. Donc j'ai interrogé ma mère à ce sujet-là pour savoir s'il y avait eu des avortements et des fausses couches dans la famille. Je le savais qu'il y en avait eu du côté de mon papa.
Oui.
Mais voilà, je voulais en savoir plus. Et donc quand je pose cette question, un grand vide s'installe et ma mère qui me dit « Oui, moi j'ai fait un avortement avant toi.
Ah. »
Et c'est comme si d'un seul coup... Donc je l'ai appris, j'avais 40 ans, c'est comme si d'un seul coup un certain nombre de choses s'éclairaient, parce que j'avais toujours une difficulté à trouver ma place, puisqu'effectivement je venais après un enfant qui n'était pas né, voilà, et donc du coup d'un seul coup tout s'éclairait pour moi. Sachant qu'effectivement en psychogénéalogie, ce que l'on ne fait pas en généalogie, on va s'intéresser à ces enfants mort-nés, à ces avortements, à ces fausses couches par exemple, ce qui n'est pas le cas en généalogie, on ne s'y intéresse pas.
C'est important, effectivement, oui. Tout cela compte.
Exactement. Donc, pour en revenir à cette histoire des secrets, c'est-à-dire que les secrets, ils vont se matérialiser sous une autre forme, peut-être la troisième génération. Parfois, on dit que ça peut sauter des générations aussi.
Oui.
Donc, effectivement, quand on s'intéresse à son histoire et qu'on va aller mettre les pieds du côté des secrets... on peut aussi faire du mal. Il faut y aller avec des pincettes, évidemment, parce qu'on ne sait pas, ce qu'on va découvrir. Mais quand la personne est vraiment dans une démarche, elle fait cette démarche pour elle-même, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir avancer. Donc cette personne-là en a besoin. On n'est pas. Moi, après, j'ai posé 2-3 questions à ma mère. Je n'ai pas été plus loin parce que je sentais que c'était un sujet douloureux. Mais voilà, j'avais eu les réponses que je voulais.
Voilà.
Et après, moi, j'ai interrogé mes tantes. Les sœurs de ma mère, qui ont pu aussi m'en parler sous un autre angle. Donc il y a toujours moyen d'avoir de l'information, avec des collatéraux, même avec des gens qui ne sont pas des gens de la famille, qui peuvent connaître l'histoire familiale aussi. Donc il y a toujours un moyen d'avoir de l'information.
On entend bien cela. Et on entend bien aussi, avec vous Corinne Blanchet, qu'il y a toujours une circonstance, des circonstances qui justifient le recours à la psychogénéalogie. Et vous, en tant que thérapeute et énergéticienne, comment est-ce que vous aidez, comment est-ce que vous accompagnez ceux qui viennent frapper à votre porte?
Alors, c'est vrai que les personnes peuvent être dans une démarche purement de psychogénéalogie ou bien en soins énergétiques, ou moi, là, en soins énergétiques, je vais pouvoir aussi voir qu'il y a des choses liées à la famille. Alors, c'est vrai que la démarche en psychogénéalogie reste encore assez difficile pour beaucoup de personnes, même s'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, parce qu'il y a justement la Martinique étant aussi un petit territoire.
Oui,
donc, c'est vrai
aux Antilles-Guyane, hein, je pense,
Voilà, de manière générale, donc tout le monde se connaît, tout se sait, tout se dit, même si ça ne se dit pas, on le sait quand même.
Oui.
Voilà, on sait que On dit qu'un tel n'est pas le fils d'un tel, mais on sait très bien que c'est le fils du voisin d'à côté, par exemple. C'est officiel et non officieux. Donc c'est vrai qu'en général, les démarches en psychogénéalogie, alors il peut y avoir plusieurs personnes qui font ces démarches-là. J'ai déjà eu des personnes qui étaient, par exemple, des grands-mères qui avaient envie de transmettre aussi l'histoire et puis d'aider leurs petits-enfants à pas reproduire certains schémas, par exemple. Ou bien des personnes qui restent coincées dans des schémas répétitifs et qui veulent comprendre pourquoi je répète toujours les mêmes histoires, pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes situations. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans mon histoire familiale qui expliquerait cela?
Ouais. Alors,
c'est une possibilité, c'est une piste. Hein. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne va pas faire de psychogénéalogie, évidemment.
Voilà, donc c'est souvent parce qu'il y a quelque chose de négatif qui apparaît, qui revient, qu'on cherche finalement à comprendre le pourquoi du comment.
Voilà, on va dire il y a un mal-être où il y a des interrogations, on n'arrive pas, comme si on était un peu bloqué,
ouais.
En quelque sorte, sachant que en psychogénéalogie, on va vraiment travailler sur une problématique identifiée, parce que l'arbre généalogique, on peut s'y perdre. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de pistes. Donc vraiment, quelqu'un qui a une problématique d'argent ou quelqu'un qui a une problématique de couple, on n'ira pas chercher les mêmes informations dans l'arbre généalogique, tout simplement.
Oui. Donc cela demande du temps.
Ça demande du temps.
Voilà.
Effectivement.
Et des fois, mais trouve-t-on toujours la vérité, ce que l'on cherche, Corinne Blanchet ?
Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot « vérité » ? Parce
oui.
que après, comme on dit, c'est que parfois, on croit connaître notre histoire, alors que notre histoire, elle est faite de légendes, par
ouais.
exemple.
Par exemple,
on va dire que le grand-père est mort en héros de guerre, alors qu'il est rentré de la guerre et puis il s'est suicidé à son retour, tellement il avait été traumatisé.
Oui.
Vous voyez, donc effectivement... On va aller chercher des réponses à un moment donné. Bon, peut-être qu'on a trouvé des réponses. On n'a pas besoin d'aller voir plus loin. En tout cas, on a besoin d'avoir... Les personnes qui font cette démarche-là, elles ont besoin d'avoir des éléments de réponse pour y voir plus clair, pour se sentir mieux. Elles n'iront peut-être pas forcément au bout de la démarche. Elles vont avoir des informations et puis ça va suffire.
Exactement.
Voilà à peu près comment ça fonctionne. Mais
ça va suffire.
C'est un vaste sujet. Hein.
Tout à fait. Et on prend le temps ce matin d'en parler avec vous. Vous nous aidez énormément, Corinne Blanchet, ce matin. Parce qu'il faut simplement déjà comprendre, à 9h et bientôt 33 minutes sur Guyane la première, qu'en éclairant le passé, on donne du sens à son existence. C'est cela.
Exactement.
C'est donner du sens à ce que l'on vit. C'est pour ça qu'on va fouiller dans le passé.
Exactement. En fait, à quoi ça sert de travailler sur son arbre, là, d'un point de vue psychogénéalogique ? C'est on va aller finalement chercher qui on est véritablement et profondément. C'est comme une reconquête de sa propre identité, parce que finalement, la famille, l'histoire familiale nous transmet des choses. On va fonctionner avec des loyautés familiales, par exemple. Mais est-ce que finalement, ce sont nos propres choix ? Ou est-ce que ce n'est pas de manière inconsciente ? On va faire telle profession pour respecter la mémoire du grand-père ou pour faire plaisir à sa mère, par exemple.
Par exemple.
Donc c'est un peu comme une... Voilà, on a besoin d'avoir la réponse sur vraiment qui on est. Et puis, c'est vrai que d'aller aussi sur ces territoires qui ont quand même vécu l'histoire des colonies, l'histoire de l'esclavage. Donc, l'histoire est lourde. Donc, c'est vrai que c'est comme s'il y a des choses qui se sont arrêtées nettes à un moment donné. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrance. Sauf que les descendants ne peuvent pas, eux, continuer à vivre dans cette souffrance.
Oui.
Qui n'est pas leur propre souffrance, qui est la souffrance des ancêtres. Mais on peut faire en sorte que pour pacifier cette souffrance et rendre la souffrance de l'arrière-grand-père à l'arrière-grand-père, alors que ce n'est pas notre souffrance.
Tout à fait. C'est très important.
Je ne sais pas si je suis très
claire. Oui, tout à fait. C'est redonner finalement au sujet sa place. Vous le disiez
Exactement.
Précédemment à Corinne Blanchet, effectivement, en éclairant le passé, en fouillant dans le passé, on donne du sens à son existence, on trouve qui on est, et puis aussi on trouve sa place. On trouve
Exactement.
Sa place dans sa lignée, dans sa lignée familiale. Hein.
Tout à fait, parce que de toute façon, on voit très clairement dans le cas des enfants nés sous X, dans les cas des enfants qui ont été adoptés, à un moment donné, il y a une recherche de l'identité, parce qu'ils ont été coupés de leur histoire familiale. Et quand on est coupé de son histoire, il manque quelque chose. Donc il peut, même si on peut décider volontairement de ne plus être en contact avec sa famille, mais de toute façon, on est quand même issu de cette famille, on est un maillon de cette histoire familiale, de ces deux histoires familiales en fait.
Tout à fait.
qu'on le veuille ou pas, voilà, on est issu d'une lignée paternelle, on est issu d'une lignée maternelle, et voilà, donc on est vraiment un maillon de deux chaînes, en quelque sorte, hein, de deux histoires, et donc ça, on ne pourra, on peut partir à des milliers de kilomètres de sa famille, mais n'empêche qu'on est lié à cette famille, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas.
Qu'on le veuille ou non, vous êtes bien sur Guyane la Première en ce lundi 7 octobre. Et nous parlons de psychogénéalogie, d'héritage transgénérationnel. Et nous parlons donc de psychogénéalogie avec vous au 31 90 00 et avec notre invitée, la thérapeute et énergéticienne Corinne Blanchet.
Tokushipan, 9h-10h sur Guyane la Première.
Ces deux-là aiment travailler ensemble, Justin Demille et Guy Rémy sur Guyane la Première. De retour dans votre émission Tokushipan, 9h-10h. On s'intéresse ce matin à la psychogénéalogie. Nous échangeons avec la thérapeute et énergéticienne Corinne Blanchet, dont la démarche thérapeutique, je le rappelle, repose sur l'énergétique et l'héritage transgénérationnel. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin, depuis que nous avons commencé à échanger dans Corinne. Corinne Blanchet, on a insisté donc sur un premier point en expliquant qu'il y a toujours une circonstance qui justifie le recours à la psychogénéalogie, le plus souvent parce qu'on constate des échecs récurrents, on constate des blocages. Donc tout d'un coup, on va s'intéresser, on va essayer de comprendre et on va fouiller dans ce passé pour éclairer, pour donner du sens à son existence et à la vie qu'on mène. C'est tout l'intérêt effectivement de recourir à la psychogénéalogie. Et vous accompagnez ceux qui viennent vous voir dans votre cabinet, et bien dans cette longue étape, parce que ça demande du temps.
Ça demande du temps, effectivement, puisque les informations, on peut mettre du temps à avoir les informations. Ça prend. Et puis travailler sur la famille, c'est jamais évident. Ça fait remonter aussi des choses au niveau inconscient. Donc parfois, on peut être mal à l'aise ou quoi. Mais bon, voilà, je pense que c'est une démarche en tout cas intéressante qui peut permettre de libérer ou de débloquer certaines choses quand on est un petit peu perdu, on va dire.
Tout à fait. Et puis tout ce qui peut contribuer à nous faire du bien, à nous sentir bien, à nous libérer, vraiment, il faut y aller. Mais pour ceux, Corinne Blanchet, qui se montreraient sceptiques, hein, qui seraient plutôt « non, nous sommes maîtres de notre destin, pourquoi toujours vouloir aller fouiller dans le passé, soyons dans le présent ». Focus sur le présent. Que dire à ces personnes qui se montreraient sceptiques, Corinne ?
Alors, si ces personnes vont bien et que tout va bien, bah, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de faire ce genre de démarche. Après, pour des personnes qui ne vont pas bien, moi je dis que la psychogénéalogie est une des pistes qui peut être explorée. Et que même si... le présent est issu du passé, de toute
aussi,
façon.
Ouais.
Donc, de toute manière, on vient pas de nulle part. Donc... Et dans toutes les familles, il y a des dysfonctionnements, il y a des secrets dans toutes les familles. Après, c'est plus ou moins pesant. Il y a des personnes qui arrivent très bien à se construire ou qui ont une grosse capacité de résilience et tout va bien. Mais voilà, c'est une démarche, moi, je pense, intéressante qui permet aussi après d'éviter de transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, des échecs, des souffrances, des traumatismes qu'on aurait enfoui au fond de soi, sauf que les enfants sont des éponges, de toute façon.
Tout à fait.
Donc, ils absorbent toute l'histoire de leurs parents, ou leurs grands-parents, etc., etc.
Absolument. Vous, en tant que thérapeute énergéticienne, comment travaillez-vous ?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est en psychogénéalogie, on travaille avec un outil qui s'appelle le génogramme. Donc, en fait, c'est un outil graphique qui va permettre de dessiner... De dessiner la famille, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un protocole. Hein, tous les personnes qui font de la psychogénéalogie vont utiliser le génogramme. Génogramme voulant dire l'écriture de l'origine. Donc, en fait, c'est une représentation graphique de la famille avec un protocole. Les hommes vont être dessinés en triangle ou en carré suivant les différents courants. Les femmes en rond. On va relier les parents d'une certaine manière. On va noter les divorces d'une certaine manière, etc., etc. Donc, ça va permettre aussi, au fur et à mesure qu'on va dessiner cet arbre de manière graphique, on va le remplir donc avec des informations qu'on va aller chercher en généalogie. Et puis après, on va pouvoir faire de l'observation de cet outil graphique. Toujours en lien avec la problématique initiale. Et en général, trouver la problématique initiale, c'est pas forcément si évident parce qu'on va noter une phrase affirmative, et c'est pas forcément évident justement de la noter de manière très claire, parce que souvent il y a déjà quelques éléments de réponse dans cette affirmation, on va dire.
D'accord.
Donc c'est vraiment un outil, voilà, l'outil utilisé, c'est le génogramme, qu'on va après remplir avec des informations en généalogie. Alors effectivement, au bout d'un moment, on ne pourra pas... à un moment donné, on n'aura plus les informations. Hein, et sachant que, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, en psychogénéalogie, on va travailler sur 4 générations.
Toujours.
On peut aller plus loin, mais en général, déjà les schémas répétitifs qu'on va voir sur ces 4 générations, on les retrouvera plus haut. Et plus on monte haut dans l'arbre généalogique, et plus il est difficile d'avoir de l'information plus développée, on va dire.
D'accord, très bien. Très bien. Et donc, c'est ce fameux génogramme qui sera donc produit, qui apportera la réponse.
Alors, on va faire après de l'observation. C'est vrai que moi, avec mes autres thérapeutes, dès que la personne va dessiner, parce qu'en général, la première séance, bon, il y a toujours un échange, hein, ouais. Mais quand on va commencer à travailler sur son génogramme, la personne va travailler uniquement de mémoire. Donc, on va lui donner le protocole et on va la laisser dessiner avec le protocole. Et juste la façon dont... elle va dessiner ce génogramme, on peut avoir déjà de l'information.
D'accord.
On peut voir, cette génération, tout est bien dessiné, tout est clair. Et puis on voit qu'à la génération d'au-dessus, par exemple, c'est fouillis, le protocole n'a pas été respecté alors que la personne l'avait sous les yeux. Donc voilà, on va aller après poser des questions. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas moi qui vais donner les réponses. C'est que la personne va aussi faire après de l'observation. On va regarder, par exemple, est-ce qu'il y a des dates récurrentes? Est-ce qu'il y a des événements récurrents, par exemple? Toutes les femmes meurent par cancer, par exemple.
Par exemple, effectivement. Effectivement, c'est vrai qu'en préparant cette émission et en discutant autour de moi, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. On constate qu'il y a des dates qui sont assez qui se ressemblent, ou des événements qui ont souvent eu lieu au même endroit. Donc tout d'un coup, effectivement, ça pose question.
Exactement. Alors, on dit toujours en psychogénéalogie, il faut pas faire de l'interprétation pour tout et n'importe quoi. Il faut vraiment après vérifier. Voilà, c'est-à-dire, on observe. Ok, on va vérifier si ça prend sens ou pas, parce que pour la personne, peut-être que ça prend pas du tout de sens, ça ne résonne pas en fait, puisque il faut savoir que en psychogénéalogie, c'est quand même l'inconscient qui travaille.
Oui.
Donc il y a des choses qui vont nous paraître évidentes et qui vont nous parler tout de suite. D'autres, on ouvre des pistes. Après, on va les vérifier de la matière, tout simplement.
Et en règle générale, alors vous me direz que c'est tout à fait personnel, ça dépend de chacun, mais dans ce processus-là, le travail se fait en combien d'étapes, en combien de séances? Est-ce qu'il y a justement un fameux protocole à respecter? Il faut impérativement 3, 4, 5 séances. Comment ça se passe?
On peut difficilement répondre à cette question, parce que déjà ça va dépendre aussi si la personne a déjà fait des recherches en généalogie, parce que ça prend du temps en fait, comme
d'accord.
On a dit tout à l'heure, on se transforme en détective privé, donc la personne qui a déjà de l'information, c'est sûr qu'on va gagner du temps. La personne qui doit aller chercher l'information, ça prendra plus de temps, donc peut-être on peut dire entre 5 et 15 séances, mais vraiment ça dépend quoi, on peut pas, sachant qu'entre 2 séances, on peut laisser 2-3 mois par exemple aussi.
Ok.
Aller chercher de l'information, ou bien là on sent qu'il y a des résistances et que ça devient un peu trop douloureux, parce qu'il faut savoir aussi que quand on va travailler en psychogénéalogie, quand on va travailler sur les arrière-grands-parents, ils sont loin de nous, donc ça nous touche moins, mais plus on se rapproche de nous, et plus on va sur les parents, les frères et sœurs, plus ça nous touche,
oui.
Vous voyez, donc c'est vrai que parfois il peut y avoir des moments où nous-mêmes on bloque, parce que il y a des choses, ça fait remonter des choses.
Tout à fait.
C'est vraiment un travail dans la longueur. On peut s'arrêter en cours de route, reprendre. Puis comme je vous dis, finalement, la personne, elle peut déjà avoir des éléments de réponse demain et puis dire, pour moi, là, ça va, je suis OK pour l'instant, je préfère m'arrêter, quitte à reprendre plus tard. Donc, vraiment, on peut pas donner un nombre de séances, quoi. C'est un peu difficile de répondre à cette question.
Et dans ces cas-là, lorsque ça bloque ou lorsque ça réveille quelque chose de douloureux, que faites-vous? Comment est-ce que vous accompagnez la personne? Vous arrêtez, ou il y a autre chose qui démarre?
Alors après, voilà, c'est vrai que comme moi, je suis aussi énergéticienne, les soins énergétiques peuvent accompagner aussi le travail en psychogénéalogie.
Ouais.
Là, on peut donner aussi des petits exercices à faire en dehors d'une séance en psychogénéalogie. Il y a toujours un moyen, voilà, pour accompagner l'autre. C'est-à-dire, moi, je ne laisse jamais les gens dans la nature. Il y a toujours même moyen, en dehors des séances, moi, je suis disponible. On peut m'envoyer un message, on peut m'appeler, on a une question, parce qu'on a un doute, parce que... Bon, voilà, j'accompagne, donc je suis présente dans l'accompagnement. Il n'y a pas...
Tout à fait. Tout à fait. Et en règle générale, ça concerne tout le monde. Bon, nécessairement, il faut être adulte, hein, responsable pour venir vous voir. Mais est-ce que vous avez déjà eu à faire face à, par exemple, à des familles, ou à des fratries, qui viennent vous voir ensemble pour fouiller, pour enquêter, pour résoudre, pour débloquer ces nœuds qui étouffent leur vie? Est-ce que c'est déjà arrivé?
Alors, non, mais cette question est assez intéressante parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychogénéalogie, un frère et une sœur n'auront pas la même psychogénéalogie.
D'accord, ok.
Alors, en généalogie, on a effectivement la même histoire, donc ça, on peut faire un travail ensemble. Alors qu'en psychogénéalogie, c'est différent, c'est-à-dire que en psychogénéalogie, on va aussi observer quel numéro on est dans la fratrie, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., etc., etc. Donc, suivant si on vient l'aîné ou le dernier de la famille, ça ne sera pas la même chose. Si on arrive fille ou garçon, ce ne sera pas la même chose, parce qu'il y a toutes les attentes de la famille aussi par rapport à l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver au sein d'une famille, au sein d'un clan, enfin au sein de deux clans, il y a déjà deux familles qui étaient sur nous, en fait.
Et oui, on ne s'en rend pas compte, hein, mais si, effectivement.
C'est ça. Donc, on vient déjà avec un espèce de pré-pro. La grand-mère, elle n'a jamais pu faire de la danse, parce qu'à son époque, les femmes ne faisaient pas la danse. Enfin, je dis n'importe quoi, là, je prends un exemple au hasard.
Oui.
Et donc, la grand-mère, elle va pousser sa petite-fille à être la meilleure danseuse, parce qu'elle n'a pas pu réaliser ce rêve-là, par exemple.
Par exemple, oui.
Le père veut absolument que son fils reprenne l'entreprise familiale, alors que le fils, peut-être, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais il va quand même le faire pour faire plaisir à son papa, ou parce qu'il n'a pas d'autre choix, alors qu'au fond de lui, il est malheureux, comme tout, de devoir faire cette démarche. Donc, juste pour revenir à la question initiale, la démarche de psychogénéalogie, même si elle s'inscrit dans un cadre familial, elle est vraiment individuelle parce que chacun ne va pas avoir forcément la même demande ou la même souffrance. Il peut y avoir une souffrance similaire, mais par exemple, voilà, si on est l'aîné de la famille, on ira peut-être regarder dans l'arbre familial les aînés de la famille.
D'accord.
Et non pas les numéros 2 ou les numéros 3, par exemple.
Par exemple.
Parce qu'on peut être juste relié spécifiquement à ces personnes-là.
On entend bien. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel qui concerne l'individu propre.
Exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'en généalogie, on peut travailler en collectif. En psychogénéalogie, c'est difficile. Après, effectivement, je fais des ateliers, mais chacun travaille sur sa propre histoire.
Oui.
Donc faire l'accompagnement familial, je n'ai jamais fait et je ne pense pas que chacun n'aura pas... Puisqu'on voit par exemple dans une famille, par exemple, il y a un événement familial qui va se produire. On va voir, par exemple, il va y avoir deux frères et sœurs. Bah, chacun, ou trois frères et sœurs, on va dire, chacun va avoir retenu des choses différentes. Il y en a, il va avoir retenu l'information positive, l'autre l'information négative.
Oui.
Parce que chacun aura vécu aussi cet événement de manière différente.
Oui, avec sa subjectivité. Tout à fait.
Exactement. Et puis avec sa propre histoire, puisque finalement, même si on est né lié à une même famille, on n'a pas vécu les mêmes choses.
Tout à fait.
Donc en fait, c'est plus complexe que ça me paraît comme ça.
Eh oui, mais à vous écouter, on entend bien qu'au fur et à mesure qu'on entre, et à chaque fois, il y a une nouvelle porte qui apparaît, donc il faut ouvrir une nouvelle porte. Effectivement, c'est très intéressant et c'est très passionnant. Mais vous faites un métier passionnant, Corinne Blanchet.
Ah oui, moi je suis passionnée, c'est vraiment, moi je suis rentrée là-dedans au départ par la généalogie, parce que ça m'a vraiment très intéressée, mon histoire familiale. Et puis, plus on creuse, plus on a envie d'aller voir plus loin. Et puis bon, voilà, moi j'avais testé beaucoup, de thérapie, hein, en tant que personne qui était aussi en souffrance. Et c'est vrai que par la psychogénéalogie, j'ai trouvé aussi des réponses que je n'avais pas réussi à trouver ailleurs. Parce que j'ai compris que certains blocages ne venait pas de moi, mais venait vraiment de mon histoire familiale et que je les reproduisais. En fait,
tout à fait. Un message, Corinne Blanchet, qui vient de nous parvenir. Alors, je le lis en direct. Entreprendre cette démarche, c'est très bien parce que ça permet aussi de protéger les générations futures.
Exactement. Alors, plutôt que protéger, moi j'ai envie de dire, ça va éviter aux souffrances de se répéter. Va éviter aux non-dits de se répéter. Sachant, comme je l'ai dit au début de l'émission, on va s'appuyer dans un deuxième temps, quand on aura identifié un certain nombre de choses, on va s'appuyer sur toutes les ressources de l'arbre, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de ressources, évidemment.
C'est ça. Parce qu'on va mieux comprendre ce que nos ancêtres ont vécu, ce que nos aïeux ont vécu. Donc déjà, on va mieux se connaître, savoir où on se situe. Et puis c'est ça finalement, c'est en quelque sorte aussi effacer les non-dits, les occulter, sachant que ce n'est pas toujours évident, mais peut-être prévenir certaines situations.
C'est ça, puis c'est vrai qu'en comprenant mieux notre histoire, parce que finalement il y a plein de choses dans notre histoire qu'on ne connaît pas. Dans certaines familles, on sait comment les parents se sont rencontrés, mais dans d'autres familles, finalement, on ne sait pas du tout comment mon père et ma mère se sont rencontrés, comment ils ont vécu, enfin voilà, quelle a été leur histoire d'amour finalement, de quoi on est, d'où on vient réellement. Et ça va permettre aussi de comprendre que parfois, on peut en vouloir à nos parents de s'être mal comportés avec nous, d'avoir manqué d'amour. Parfois, il y a des parents violents, il y a des parents alcooliques, enfin voilà, il y a vraiment des parents dysfonctionnels. Mais de connaître l'histoire, ça va peut-être permettre de comprendre qu'eux-mêmes ont vécu des choses lourdes et qu'ils n'ont pas appris à donner de l'amour. Ils n'ont pas appris, ils ne savent pas faire, tout simplement. Donc, ce n'était pas contre nous, mais c'est parce qu'eux-mêmes étaient remplis de souffrance et d'angoisse et qu'ils ne savaient pas comment faire avec leurs propres enfants, tout simplement. Donc, ça permet aussi d'éviter que ça continue la chaîne des souffrances et des dysfonctionnements familiaux.
Exactement. Alors, Corinne Blanchet, on l'a dit au début d'émission, parce que on me fait la remarque. Oui, où se trouve Corinne Blanchet? Alors, Corinne Blanchet ne travaille pas en Guyane. Non. Vous êtes installée en Martinique.
Exactement.
Voilà. Alors, oui, je vous écoute.
Néanmoins, il est possible, alors je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est tout à fait envisageable pour faire de l'accompagnement en psychogénéalogie, c'est possible de le faire par téléphone, par Skype, ça, il n'y a pas de souci. Après, les soins énergétiques, je ne les fais pas à distance parce que je préfère, il y en a qui le font, moi, je ne le fais pas. Ouais. Mais en tout cas, un accompagnement en psychogénéalogie, il est tout à fait possible qu'on puisse le faire à distance avec quelqu'un qui est en Guyane et moi en Martinique, ça ne posera pas de soucis. Hein. Ça, c'est tout à fait envisageable.
C'est tout à fait envisageable et c'est tant mieux pour nos auditeurs, Corinne Blanchet. Voyez-vous, le temps passe très vite lorsque nous sommes en bonne compagnie et qu'on a appris beaucoup de choses ce matin. Grâce à vous, Corinne Blanchet, thérapeute énergéticienne. Alors, pour vous joindre, Corinne Blanchet, vous avez un site internet, je précise à nos auditeurs.
Tout à fait.
Il suffit simplement de d'inscrire votre nom, prénom, Corinne Blanchet, Blanchet avec ET à la fin, on précise.
Exactement.
Mais pour vous joindre, Corinne, comment faire également?
Alors, donc, vous avez donc le site, c'est racineenergie.com, racineenergie à deux E, donc tout accroché. Donc, sinon, le numéro de téléphone, c'est le 06 96 09 71 11. Et sinon, peut-être le plus simple, de me joindre par mail, puis moi, je vous recontacte ensuite. Donc, Corinne Blanchet, tout accroché, donc un R, deux N, donc corinneblanchet@yahoo.fr.
Exactement. Passez une excellente journée, Corinne. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de m'avoir invité à votre émission.
Avec joie.
Et merci à vos auditeurs.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Très belle journée. Au revoir.
Au revoir.
Tokushipan, 9h-10h sur Guyane la Première.